Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, 9h08, 8h08, pardon. C'est RMC, c'est le week-end des experts.
À chaque fois.
Énorme. Et il nous reste encore 2 heures, non pas 1 heure d'automobile.
On va s'arrêter avant. Tiens,
oui, Jean-Luc, direct studio.
Ouais, on a Marc pour répondre. Vous savez, Florent, avant là, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui voulait changer de voiture.
Oui.
On a Marc, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Il a donc bazardé sa vieille auto. Il a eu 5000 euros de prime à la conversion. Il a eu 2000 euros de plus de la région. C'est vrai qu'il y a des aides régionales. Il a acheté une Zoé Zen, donc d'occasion de 2006, qui avait 22 000 km, qu'il a payé 8 600 euros. Si on enlève toutes les aides, en fait, elle lui a coûté que 1 600 euros.
Ah oui.
C'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Mais après, il faudra quand même tous les mois payer la location de la batterie, quoi qu'il arrive.
Et voilà. D'ici 10 heures, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien écoutez, tout à l'heure, on saluera cette initiative de Land Rover France qui mise sur l'hybride éthanol, Jean-Luc. On en parlera avec le directeur général de Jaguar Land Rover qui sera avec nous au téléphone. On retrouvera aussi dans quelques instants Céline Kastner pour notre rendez-vous Automobile Club Association, vous le savez. L'essai de la semaine en toute fin d'heure, eh bien ce sera l'Opel Corsa i. Et bien sûr, toutes vos questions auto dès maintenant, 3216. Vous avez aussi votre smartphone et l'appli RMC Direct Studio qui vous permet de dialoguer avec nous. Laissez-nous aussi votre numéro de téléphone si vous nous joignez par l'appli. Et on accueille tout de suite William.
Oui, bonjour.
Bonjour William.
Bonjour William. Bonjour Jean-Luc. Ouais, bonjour Jean-Luc, bonjour François, les amis du dimanche matin.
Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, William.
Oui, je suis à Pau.
Très bien, et on vous écoute.
Alors, moi j'ai une... je vais devoir en parler au passé, mais j'ai une hybride Auris, une Auris hybride de 8 ans, qui avait 143 000 km. Donc j'ai été, je dois dire, complètement ravi, hein, parce que je n'ai strictement rien eu en dehors de l'entretien pendant 8 ans. C'est au moment où j'ai fait mon message, où je vais adresser mon message, je l'avais toujours et j'étais un petit peu dans le doute, est-ce que je change, toujours pour une hybride parce que j'étais trop content du système. Et donc j'avais essayé la nouvelle Yaris qui est très très agréable, mais donc je trouve quand même que pour une petite voiture à la réflexion, le prix est quand même très élevé. Donc j'ai fait une petite recherche sur le local, notamment chez un mandataire très près de chez moi. Et il m'a proposé une HRC hybride dans une finition de luxe que je ne pourrais jamais m'offrir neuf, distinctive, de 2017, 49 000 km. Alors au moment où j'avais fait le message, je ne l'avais pas acheté, mais comme c'est une occasion, je n'avais pas le choix, il fallait que je me décide vite. Et donc j'ai craqué. Et je voulais avoir l'avis de...
Alors attendez, parce que vous me dites j'ai craqué pour une HRC. Moi, HRC, pour moi, c'est Honda Racing...
Non, pardon. C'est CHR, pardon.
Ah d'accord. Oui, c'est pas la même chose.
Ah oui, là je comprends mieux, ouais, parce que ouais, HRC, je me disais, tiens, c'est quoi ce truc-là?
Je dois être dyslexique dans les sigles.
Donc ouais. Vous avez pris un CHR donc, d'occasion de 2017, c'est ça?
Oui, c'est ça, 49 000 km, alors dans une finition dite distinctive. Voilà. Franchement, je suis assez sidéré du niveau de finition. Moi, quand je regarde la voiture, j'ai l'impression qu'elle est neuve. Bon, voilà.
Non, mais c'est la première Toyota qui se retrouvait avec des plastiques un peu dignes de ce nom. Alors depuis, ça a évolué, mais entre la génération, vous aviez d'Auris ou l'intérieur, on peut le dire, hein, puisque maintenant c'est du passé, c'était un peu miséreux, quoi, les plastiques.
2012, c'était limite.
C'était pas terrible. Donc là, ils ont fait le gros progrès, est arrivé avec ce modèle-là, qui est un petit SUV compact, hybride. Ouais. Et là, ils ont le gain en ce qu'on appelle en qualité perçue a été spectaculaire. C'est vraiment pour moi le plus gros progrès de la voiture, c'est ça. Après, ce qui est un petit peu dommage sur ce véhicule-là, c'est qu'ils ont voulu en faire un véhicule un peu dynamique et donc ils ont réduit la démultiplication finale de la transmission, ce qui fait que le phénomène de patinage, bon, auquel vous étiez habitué, il est encore très présent sur ce véhicule-là, alors que sur la Prius, qui avait la même motorisation, il est beaucoup moins présent. C'est ce que je trouve un peu dommage. D'ailleurs, ils ont corrigé là, sur les dernières versions qui sont sorties. Bon, d'abord, il y a deux puissances maintenant qui sont désormais disponibles. Ouais. Il y a un moteur qui fait 180 chevaux, donc évidemment, plus le moteur thermique va être puissant, moins on aura le phénomène de patinage dans les accélérations, mais même sur la version standard, standard, on l'a un petit peu moins. Mais sur le modèle que vous venez d'acheter, ça reste encore assez présent. C'est le principal défaut de la voiture. Le deuxième étant le GPS qui est complètement aux fraises.
Il n'y est pas.
Ah, vous l'avez pas. Bon, bah, comme non. Ça évite. Au moins, vous avez une économie d'un truc qui marche pas. Ouais. Voilà, c'est la seule voiture avec laquelle je me suis perdu pendant presque 2 heures. Le GPS n'arrivait pas à trouver son chemin. C'était un truc de dingo, quoi. Et comme j'étais à l'étranger, mon smartphone, je pouvais pas avoir Waze. Ouais. Et en fait, j'ai tourné en rond. Je devenais dingue. Et puis après, j'ai laissé tomber le GPS. J'ai dit, allez, hop. Je vais faire comme on fait d'habitude, je vais demander ma route.
Alors, une question, Jean-Luc, c'est vrai que moi qui sors d'un véhicule de... Bon, on peut le dire, moi je l'ai beaucoup aimé parce que en termes d'entretien, en termes de coût, c'est remarquable, l'Auris que j'avais. Mais elle était... il y avait juste les équipements, on va dire, c'était minimaliste. Vraiment, on peut dire ça. Là, c'est exactement l'inverse. Moi, j'ai le sentiment d'arriver dans une voiture du 22e siècle avec tout un tas d'équipements, de sécurité, d'électronique. Et ça détecte la distance par rapport à la voiture d'avant, sur les côtés. Enfin, je suis un peu impressionné, quoi. Mais ma question, c'est est-ce que c'est fiable, tous ces équipements-là? Est-ce que c'est utile?
Alors, est-ce qu'ils sont tous utiles? Pas forcément. Moi, par exemple, le franchissement de ligne, je trouve que c'est plus embêtant qu'autre chose. J'allais dire un autre terme, hein, quand vous êtes sur la route. Ouais. Moi, je le déconnecte systématiquement parce qu'en plus, ça peut être des sources de distraction pour le conducteur. Il vaut mieux être concentré sur sa conduite. Alors après, des systèmes qui sont transparents pour le conducteur, c'est extrêmement bien. Le radar et le freinage automatique, si vous n'avez pas détecté un obstacle qui est sur la route, si vous l'avez pas vu, ça c'est très bien. Mais quand vous conduisez normalement, il intervient pas. Ce qui est gênant pour moi, c'est les systèmes intrusifs. C'est le truc qui va vous corriger votre trajectoire au moment où vous franchissez. Alors c'est pas le cas sur le CHR, mais vous avez des véhicules aujourd'hui qui sont capables de corriger votre trajectoire. Bon, franchement, tant qu'on n'a pas mis un pilotage automatique, la voiture elle n'a pas à corriger votre trajectoire. Des fois, elle le fait. Je me suis retrouvé dans des situations avec des voitures comme ça et même des véhicules haut de gamme. On se retrouve des fois, c'est limite dangereux quand même. Donc, les systèmes de sécurité, oui, à partir du moment où c'est de la sécurité en plus. Voilà. Pas que ça prenne la place du conducteur, parce que les systèmes aujourd'hui sont pas assez performants pour vraiment prendre la place du conducteur.
Une question, Jean-Luc, que j'ai cherché sur le site de RMC, si vous aviez, dans l'émission Votre Auto, fait le décès de ce CHR.
Ah ouais, mais il y a longtemps, oui. Ouais,
J'ai pas trouvé.
Si, il y a longtemps, L'essai, même, je peux vous dire, c'était en Espagne, je m'en souviens très bien, je me suis perdu tellement que j'ai pu visiter.
C'était à l'époque où vous pouviez partir en vacances.
Ouais, enfin, on partait pas en vacances, on allait essayer des essais,
Jean-Luc. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on voit des beaux pays, on voit des beaux pays,
sympathique.
C'est vrai que c'était bien. Mais ça fait déjà un petit moment, hein. Donc c'est pas un truc récent. Après, si vous posez la question de la fiabilité, ça sera comme l'Auris, c'est le même système, c'est la même mécanique. Donc de ce côté-là, il y a zéro souci.
Merci beaucoup William pour votre appel. 9h15, il est temps d'accueillir, comme régulièrement dans ce rendez-vous auto, Céline Kastner, directrice juridique et des politiques publiques de l'Automobile Club Association. Bonjour Céline.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Céline. Donc, voilà. Qui a pu se lever enfin un peu plus tard grâce à un changement d'heure.
Exactement. Bon, ça fait du bien.
Bon, merci Céline, au revoir et bon week-end.
Ça serait pas gentil quand même. On va parler de véhicules d'occasion.
Ouais, on va parler de véhicules. Vous faites une petite annonce, vous dites voilà, j'ai une super voiture neuve, jamais roulée, première main, et puis en fait, il s'avère que vous êtes un menteur invétéré. Il y a quelqu'un qui vous achète votre voiture sur la foi de ces informations, et on se rend compte que c'est faux. Et là, en l'occurrence, votre adhérent avait acheté la voiture auprès d'un professionnel, donc qui avait menti visiblement sur l'annonce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, l'adhérent est en quête d'une voiture d'occasion. Il repère une petite annonce, et le véhicule concerné, alors, c'est une Porsche. Donc une valeur quand même importante, avec déjà 100 000 km au compteur. Donc l'annonce était assez détaillée, et c'est précisément ça qui a mis l'adhérent en confiance, puisque elle stipulait que le véhicule n'était pas importé, qu'il était à jour d'entretien et équipé notamment d'un régulateur de vitesse. Donc c'est effectivement tout ce que recherche l'adhérent. Donc il passe commande et il se passe 3 semaines avant qu'il prenne livraison du véhicule. Et puis, malheureusement, après l'achat, l'adhérent déchante un petit peu, puisque il découvre, et ce, notamment en trouvant le carnet d'entretien qui est au fond de la boîte à gants, mais que le vendeur n'avait pas pris la précaution, comme il se devait, de lui présenter au moment de la transaction, en amont de l'engagement de l'adhérent, que le véhicule en fait provient d'Allemagne. Il s'agissait donc bien d'un véhicule importé, contrairement à ce qui avait été très très clairement annoncé et confirmé d'ailleurs ensuite par le professionnel. On note que le carnet d'entretien n'est absolument pas à jour, puisqu'il n'y a absolument aucune opération d'entretien entre, en gros, 2001 et 2012. Donc, ça laisse un gros trou dans l'entretien. Ouais, et on se demande
surtout pour des véhicules comme ça, qui nécessitent un entretien scrupuleux.
Et conforme aux préconisations du constructeur. Donc là, encore une fois, contraire à ce qui avait été clairement annoncé. Et puis, accessoirement ou pas, l'adhérent constate aussi que le véhicule n'est pas équipé de régulateur de vitesse. Or, c'était un élément aussi important pour lui. Et puis après, il y a d'autres défauts plus anecdotiques, mais quand même, genre la télécommande d'ouverture des portes et du béquet qui ne fonctionne pas, le code de la radio bloqué, enfin toute une liste de petits détails qui fait que rien ne va.
En fait, le carrosse s'était transformé en citrouille à l'arrivée.
Exactement. Donc il saisit le service juridique de l'Autonomie Club Association, donc on intervient auprès du professionnel et on lui rappelle ses obligations et on lui précise d'abord que la teneur de son annonce l'engage en fait, je note d'ailleurs que l'adhérent avait heureusement pris le soin de garder la petite annonce.
Et ouais,
c'est une précaution qu'on doit avoir.
Exactement, faut le préciser à tous les gens, parce que autrefois, quand on avait des annonces sur papier, on pouvait conserver facilement l'annonce de sa voiture, mais aujourd'hui, vous allez sur les sites d'annonces, vous achetez un véhicule, vous avez tout intérêt à enregistrer la page de l'annonce, parce que ça pourra par la suite démontrer qu'il y avait des erreurs ou des mensonges volontaires dans l'annonce. Hein.
Et donc là, on produit l'annonce et on lui explique que les éléments sont suffisamment importants pour jouer en fait un rôle absolument essentiel et décisif dans le choix de notre adhérent d'acheter ce véhicule. On peut considérer que tout ça était des éléments de nature à vraiment emporter son consentement. Et qu'ils ont été substantiels à son consentement. Alors, parce que dans l'absolu, on le précise, on peut admettre qu'une annonce puisse être légèrement inexacte.
Oui, si par exemple on dit très belle voiture, alors que bon, très belle, c'est subjectif.
Oui, il y a ça, il y a cette notion de subjectivité, ou peut-être des erreurs, mais à partir du moment où le vendeur rectifie, c'est dire auprès de l'acheteur avant que celui-ci s'engage, bon, on peut admettre à la marge des ficheuses. Là, c'était pas le cas, c'était quand même des éléments importants et en plus qui ont été confirmés au moment où l'adhérent a franchi le seuil de la porte de ce vendeur. Le professionnel là devait donc livrer un bien conforme à ce à quoi il s'était engagé, ce qui n'est évidemment pas le cas, le bien n'est pas du tout conforme. Alors, concrètement, les petits défauts techniques comme le problème de télécommande aurait pu être réparé, mais c'était pas possible de remettre en conformité les problèmes de provenance et d'options manquantes. Donc là, la mise en conformité n'était pas possible, donc ça nous donnait le droit de demander soit une réduction du prix ou l'annulation de la vente qu'on a privilégiée là, puisqu'en plus, autant vous dire que le lien de confiance, il était un petit peu rompu, surtout sur les problématiques de provenance du véhicule.
Oui, parce qu'une Porsche qui vient d'Allemagne, en plus, s'il y a un trou dans l'historique, pratiquement sûr que le kilométrage a été abaissé. C'était quand même un sport national en Allemagne.
Exactement, et les transactions de véhicules d'occasion, notamment transfrontalières, sont vraiment encore une problématique, notamment, comme vous le dites, sur les problèmes de kilométrage. Et donc, on a obtenu assez rapidement que l'adhérent soit remboursé du montant qu'il a déboursé, vers à peu près plus de 28 000 euros, et remboursement aussi des frais d'immatriculation qu'il avait déboursés, qui étaient aussi importants. Donc voilà, le conseil, c'est que sur un véhicule d'occasion, et puis ces achats sont nombreux, je crois qu'en 2019, on était
plus de 5 millions.
Voilà, c'est ça. Donc la voiture, c'est un outil de déplacement de notre quotidien, mais c'est aussi un investissement financier important. Et puis c'est aussi un investissement affectif, comme on le dit souvent. Et il y a parfois un effet coup de cœur un petit peu euphorisant qui fait qu'on peut baisser la garde, notamment face à un vendeur plein d'aplomb, et que ça suppose d'être prudent avant et pendant la vente. Et en amont, on est aussi effectivement là pour accompagner nos adhérents, mais notamment dans le décryptage des petites annonces. Hein. En gros, si une affaire et paraît trop alléchante, c'est que peut-être derrière, ouais, il y a aussi une grosse arnaque.
Si la mariée est trop belle, il faut se méfier. Ça veut dire aussi que quand on rédige une annonce, on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire « Oui, superbe voiture avec une peinture neuve si ce n'est pas vrai. » On n'a pas le droit de dire que les pneus sont neufs si ce n'est pas vrai. Il faut se méfier de tout ça quand même. Hein. On s'engage en fait.
Exactement. Les annonces, quand elles sont passées, alors que ce soit dans un journal sur Internet, engage leur auteur et ça, que ce soit un vendeur professionnel ou même un particulier. Donc vraiment, il faut faire attention à la rédaction de l'annonce. Si vos auditeurs sont un jour dans la peau du vendeur et qu'ils passent une annonce, il faut qu'ils soient extrêmement vigilants sur les termes et sur ce à quoi ils s'engagent. Parce que, alors si c'est un vendeur, on pourra lui opposer des pratiques commerciales trompeuses ou même une publicité mensongère. Et le particulier peut être mis en cause également. Et en tous les cas, il y a d'abord un recours sur la conformité du bien vendu si le bien n'est pas conforme. Et au-delà de ça, il y a même effectivement des possibilités de sanctions pénales et de poursuites sur la notion de tromperie.
Céline, merci beaucoup.
Merci Céline.
Bonne journée.
Au revoir.
Directrice juridique des politiques publiques de l'Automobile Club, association qu'on retrouve régulièrement dans ce rendez-vous auto. Jean-Luc, on revient dans un instant. Il est 8h23 et non pas 9h, comme j'ai pu le dire tout à l'heure.
Et voilà, exactement.
8h23, on a une pendule sur nous qui ne marche pas.
J'allais mettre 10 euros à chaque fois dans le nourrin que vous vous trompez en regardant la pendule.
La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore 1h30 à passer ensemble. Et dans un instant après la météo, on repart avec Pierre qui va nous parler de sa BMW série 4. Il arrive en fin de son contrat de location avec option d'achat. Il a quelques questions à vous poser, Jean-Luc. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà le retour de ce week-end des experts. Il est quasiment 8h30. Je vous rappelle que nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et jusqu'à 10h, Jean-Luc m'accompagne. Toutes vos questions auto au 32-16. Jean-Luc, avant d'accueillir Pierre, on va rebondir sur une actualité qui est somme toute assez récente, hein, qui est arrivée il y a quelques heures. Il faut quand même l'évoquer. C'est la décision de Peugeot d'arrêter d'ici 2025 tous les moteurs diesel.
Oui, la commercialisation de tous les moteurs diesel, c'est-à-dire en 2025, on ne pourra pas acheter une Citroën, une Peugeot, une DS9.
Vous rendez compte ?
Avec un moteur diesel. Vous rendez. Oui.
2025, c'est demain.
Vous remontez 10 ans en arrière. Vous remontez en 2015.
On trouvait quasiment que
du
diesel.
Ouais, il y avait 60. Alors, c'est un petit peu avant, hein. C'est au début des années 2010 où on était à 72 ou 73% de diesel vendu et où on nous disait l'avenir,
c'est le diesel.
C'est le diesel. Voilà. Bon, il y avait un type que je connaissais qui bossait sur RMC qui disait non, attention. L'avenir, c'est pas le diesel. Le mensonge, c'est le diesel. Et il y a des. On a caché des choses sous le tapis, quand on le découvrira, je pense que ça inversera la tendance. Tout le monde m'a pris pour
après,
un dingue.
Après, entre-temps, il y a eu Dieselgate.
Il y a eu Dieselgate, qui a été en fait la révélation.
Bien sûr.
S'il n'y avait pas eu les Américains, je pense qu'on aurait continué pendant des années.
C'est clair. Oui, il y avait une espèce d'omerta concernant diesel, pour protéger les constructeurs français aussi.
Entre autres, mais pas que les constructeurs français. C'est l'Europe qui avait pris le parti pour limiter les émissions de CO2.
Vous rendez compte, Peugeot qui a dû investir des milliards dans la dépollution des diesels, etc. Là, c'est quand même une annonce forte.
Au lancement du 3008, donc ça fait déjà quelques années maintenant, moi j'avais dîné, j'étais assis à côté de Carlos Tavares. Mmh. On avait parlé évidemment voiture pendant tout le repas. Et je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais écoutez, les diesels, vous arrêtez quand? Et il m'avait dit, c'est inéluctable. On n'a pas, sa phrase exacte, c'était on n'a pas vocation à être dieseliste pour toujours.
D'accord. Ça, c'était quand ?
Bah écoutez, lancement du 3008, vous savez, ça passe tellement vite.
Il y a quelques années.
Il y a 4-5 ans.
Oui, voilà. Donc là, voilà, c'est acté 2025. D'ici 2025, Peugeot arrêtera les moteurs diesel. 8h31, pardon. Et nous accueillons Pierre qui est là. Bonjour Pierre.
Bonjour messieurs, à la bonne heure. Je vous ai.
Bonjour Pierre. Bienvenue Pierre sur RMC. Bon.
Oui, donc voilà ma question. Il y a 3 ans, je suis parti en LOA avec une BMW. J'ai donc payé la facture avec la carte grise. Maintenant, pour des raisons personnelles, je rachète mon véhicule.
D'accord.
Et là, on me demande de repayer la carte grise.
Bah oui, c'est normal.
Ah bon ?
Bah oui, parce qu'il n'était pas à vous la voiture, donc il faut
qu'il y ait un changement. Justement, propriétaire, c'est BMW.
Oui, Le propriétaire, maintenant, BMW vous vend la voiture, donc il faut que vous l'immatriculiez à votre nom.
Oui, mais attendez, je l'ai payé une première fois déjà.
Ah, vous l'avez payé ?
Oui, à l'achat, j'ai payé la carte grise.
Ouais, alors je ne sais pas comment ça se passe en LOA. J'ai jamais eu de voiture en LOA et je dois vous avouer que là, vous me posez une colle. Je ne sais pas s'il faut payer la carte grise quand on est en LOA ou pas. A priori, moi, je dirais non, mais sur puisque Internet, vous l'avez payé.
Sur Internet, il y a tout et son contraire.
Voilà. Mais je pense que ça doit dépendre des constructeurs. Alors, je ne sais pas, vous savez quoi ? On va demander à nos auditeurs, parce qu'eux, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. C'est ça qui est bien de faire de la radio en direct. C'est qu'on a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous répondre, nous dire sur Direct Studio ou par téléphone ce qu'il en est. Mais bon, là, alors c'est le premier paiement de la carte grise qui pose question. Là, maintenant que vous rachetez la voiture,
oui,
c'est clair, c'est normal, c'est vous qui devez payer la carte grise. Ça, c'est clair. C'est quoi comme véhicule, d'ailleurs ?
C'est une série 4 grand coupé, 184 chevaux.
Oh, c'est bien. C'est bien, vous, donc, c'est bien. Vous en êtes contente, cette voiture, j'adore, elle est belle.
Absolument. Ah, ouais. J'avais des séries 3 jusqu'à présent, et là, c'est un autre toucher de route.
Ouais, j'aime bien cette. Vraiment,
c'est
j'aime
ça
bien
que j'ai gardé, d'ailleurs.
Ah, oui, bah oui. Oui, parce qu'en général, quand on prend des voitures en LOA, au bout, au bout du
oui, de la fin du contrat, on les rend.
On les rend.
Mon objectif.
Voilà.
C'était mon objectif, mais là, pour des raisons personnelles, je l'ai racheté. Par contre, est-ce que je peux vous prendre 30 secondes ?
Allez-y.
Sur la boîte automatique,
oui.
Lorsque je m'arrête à un feu rouge, oui. Je mets sur neutre pour ne pas avoir le dernier à-coup au freinage.
Oui.
D'autre part, lorsque je suis dans les bouchons, je roule en N, en boîte automatique enclenchée, mais sans accélérer. La voiture avance toute seule.
Oui, ça s'appelle du rampage.
Et d'autre part, lorsque je rétrograde sur une voie de décélération autoroute, je prends la main sur ma boîte et je descends les vitesses. Donc il y a un peu de sur-régime.
Vous voulez savoir
si
ça va influer sur la durée de vie de la boîte de vitesse ? Réponse non. Ce qui influera sur la durée de vie de la boîte de vitesse, c'est la vidange que vous ferez ou pas quand vous arriverez entre 60 et 80 000 km. Voilà.
Donc m'arrêter en neutre au feu rouge,
ça c'est bien. Non, c'est plutôt bien parce que si vous arrêtez pendant longtemps, ça évite justement les frottements dans la boîte. Donc,
moi, ce qui m'agace, c'est d'appuyer sur la pédale de frein et que y a une dernière petite à-coup, vous voyez ?
Ouais, je comprends.
Ça, donc, je ne supporte pas.
Ouais.
Donc, je me mets en haine et la voiture meurt. Elle s'arrête toute seule. Voilà.
Non, mais.
Et rouler sans accélérer dans les bouchons.
Non, mais ça, c'est normal, c'est prévu pour, en fait. Comme je vous disais, c'est le rampage, c'est prévu pour, en fait.
D'accord.
Donc ça abîme pas la boîte automatique.
D'accord. Et un peu de sur-régime lorsque je prends la main sur la boîte.
Du sur-régime, vous pouvez pas faire du sur-régime parce que en fait vous avez un limiteur qui vous empêche de faire du sur-régime. Quand vous sur-régime, c'est-à-dire que le régime monte un peu plus, quoi, c'est tout. Par rapport à la boîte ferait toute seule, vous lui faites prendre un peu plus de tours quand vous êtes en rétrogradage.
Voilà, c'est ça.
Il y a pas de problème.
Pas appuyer sur la pédale de frein.
Il y a absolument aucun souci.
D'accord. Écoutez, merci pour votre écoute.
Voilà,
Pierre. J'espère qu'on aura une réponse.
On va attendre une réponse. Puis si, écoutez-nous et puis on vous la donne dès qu'on l'a.
Donc on répète la question. Est-ce que l'on doit payer une carte grise si je rachète une LOA ?
Non, c'est au moment où vous prenez une LOA. Ouais. Est-ce que c'est la personne qui prend la location qui doit payer la carte grise ou le constructeur qui est propriétaire du véhicule ? Puisque le véhicule est en location.
Voilà, pour tous ceux qui sont bien réveillés et qui ont la réponse, n'hésitez pas. 8h35.
Bien réveillé, c'est ça qui est plus difficile. Ah, quoique, hein.
Oui.
Ah, vous n'êtes pas trompé, là.
Non, cette fois-ci, je crois que j'ai formaté mon cerveau, c'est bon. Isabelle est avec nous au 32-16. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour Isabelle.
Isabelle du Loiret.
C'est ça. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai une C3 qui date de janvier 2014. Et elle a une surconsommation d'huile. Il n'y a aucune fuite, rien sur le sol, rien nulle part. Et surtout, donc, je l'ai emmenée chez Citroën. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'en janvier, j'ai constaté qu'elle consommait beaucoup d'huile.
Alors attendez, qu'est-ce que vous appelez ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est comme moteur sur votre voiture ? Et qu'est-ce que vous appelez surconsommation d'huile ?
C'est-à-dire que tous les 1000 km, en fait, c'est vide. Elle me met défaut moteur, il n'y a plus d'huile.
Alors, attendez, plus d'huile du tout ou c'est en dessous du mini ? Parce que plus d'huile du tout, là c'est extrêmement grave.
C'est en dessous du mini.
Même.
Moi, je suis pas spécialiste des voitures, mais et surtout, elle tombe en panne. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avance plus.
Ah oui.
Alors, donc, défaut moteur.
Et c'est quoi comme moteur ?
Je sais pas.
C'est quoi ? C'est un litre, un litre deux, c'est quoi ?
Un litre deux.
Un litre deux, d'accord. OK. Alors, J'ai pas des bonnes nouvelles, Isabelle.
Docteur Moreau, s'il vous plaît. Vous qui êtes sur votre île.
J'ai pas des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qui provoque la surconsommation d'huile? Il y a plein de problèmes qui provoquent la surconsommation d'huile sur ces moteurs. C'est connu. PSA connaît ce problème-là. Ils ont d'ailleurs été obligés de modifier ce moteur 1 litre de PureTech plusieurs fois pour arriver à résoudre ces problèmes de surconsommation d'huile. Il y a une vraie surconsommation d'huile. C'est pas vous qui vous faites des idées. Il y a bien une surconsommation d'huile. La solution, elle est extrême. Elle a combien de kilomètres, votre voiture, Mehdi? Plus de 100 000?
Elle a 101 000 kilomètres.
Ouais, ça va être raide, hein. Là, ça va vraiment être dur. C'est pour ça, quand je vous dis, j'ai pas des bonnes nouvelles. Parce que la solution, c'est le remplacement du moteur.
Pur et simple, ouais. Du moteur. D'accord. Voilà. Mais comme la voiture a plus de 100 000 kilomètres.
Mais comme la voiture a plus de 100 000 kilomètres qu'elle est de 2014, autant vous dire que ça va pas être fastoche, quoi.
Oui.
Alors, je m'en doutais, en fait.
Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire. Pour consommer un petit peu moins d'huile, mais ça résout pas le problème, ça va juste consommer un peu moins. C'est comme François, vous voyez, pour qu'il consomme moins d'alcool, on lui met en fait un goulot plus petit, et quand il verse dans son verre, ça verse moins vite, donc il consomme moins. Bah là, ça va être un peu ça, c'est un peu différent, vous allez mettre une huile un peu différente, une huile qui sera plus épaisse, et le moteur consommera un peu moins d'huile. C'est-à-dire, par exemple, vous avez sans doute une 10W40 actuellement, passez une 20W50. Ça consommera un petit peu moins d'huile.
Mais ça n'a pas d'impact sur les performances de la voiture.
Façon, elle a 100 000 km, la voiture, bon, elle consommera un petit peu.
Mais il n'y a plus de performance parce qu'en fait, elle tombe en panne régulièrement. Voilà, oui. Bon. Citroën me change des bougies d'allumage.
Alors oui, c'était aussi une des... Dans les notes techniques qu'ils ont fait passer, il y a effectivement le remplacement des bougies d'allumage. Ça, ils vous l'ont fait. Il y avait le remplacement aussi du couvre-culasse. Enfin, bon,
ça, ils l'ont fait aussi.
Oui, ils l'ont fait aussi. Bon, ben voilà. Et la tête alouette. Donc, la dernière solution, je vous dis, c'est le remplacement du moteur. Mais là, 100 000 km...
Ou le remplacement de la voiture.
Oui, éventuellement, le remplacement de la voiture, vous pouvez bénéficier, elle est 2014, la prime à la conversion, et puis vous achetez autre chose.
Bah non, la prime à la conversion, non, elle est janvier 2014, j'ai pas droit, j'ai regardé.
Non.
Ah. Mais je pensais m'orienter vers une Swift hybride.
Ah, c'est très bien.
C'est très bien.
Ouais, très bien une Swift hybride.
Bah, vous changez, hein.
Ouais. Ah ouais, d'abord, ça aura plus de pêche.
Ça consomme moins d'huile,
voiture,
en plus.
Ça consomme pas d'huile. Les moteurs sont très fiables. La voiture a une bouille sympa. Elle est très sympa à conduire. Le système d'hybride léger là, de Suzuki est plutôt abouti. C'est vraiment une voiture sympa. J'essaye autour de moi. D'ailleurs, j'ai des amis à qui j'essaye, entre guillemets, d'en vendre. Parce que quand ils me posent la question, ils disent « Ah ouais, okay, je vais changer ma voiture. Qu'est-ce que je vais prendre ?» Une Swift hybride, voilà.
Je vous remercie. Ouais. C'est bien.
Non,
mon dimanche commence bien.
Voilà. Ouais, séparez-vous de la C3 parce que là, c'est un problème que vous n'arriverez jamais
d'accord.
à régler.
Ok, je vous remercie beaucoup.
Voilà. Merci. Et la Swift hybride, c'est très bien.
Super.
Voilà, Isabelle.
Bonne journée,
merci
Isabelle.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Isabelle, qui nous a appelé au 3216. Vous pouvez faire de même, bien sûr, et poser toutes vos questions auto. Jean-Luc, on va revenir dans quelques instants avec l'essai de la semaine.
Martine qui dit oui en LOA, c'est la personne qui loue la voiture qui doit régler la carte grise.
D'accord, voilà. Au moins comme ça, Martine qui doit être une experte dans ce domaine, j'imagine. Elle nous dit pas ce qu'elle fait dans la vie, Martine.
Voilà, pour info, c'est la société de crédit, elle nous dit pas, mais on a aussi Stéphane qui nous dit pour info, c'est la société de crédit qui est propriétaire, vous d'accord. devez payer la carte grise en tant qu'utilisateur, noté sur le document, et donc racheter la carte grise en tant que propriétaire. Voilà.
Eh bien voilà, on super. A nos réponses. Parfait. Jean-Luc, dans un instant, l'essai de la semaine, l'Opel Corsa i, c'est la première Opel Corsa électrique. Voilà, Jean-Luc l'a testé, il va nous dire ce qu'il en pense, d'autant que le prix est plutôt séduisant visiblement. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on revient dans une minute, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Quasiment donc 9h moins le quart sur RMC. Merci d'être avec nous comme tous les dimanches. Votre auto, on est là jusqu'à 10h avec Jean-Luc.
Et quand on fait appel aux auditeurs parce qu'on n'a pas la réponse à quelque chose, c'est incroyable le nombre de
réponses. Bien sûr, on a eu beaucoup de
précisions. On sait, tout le monde dit la même chose, donc on peut considérer que c'est vrai.
Oui, c'est pas comme la réponse du public, vous savez, dans qui veut gagner des millions.
55 ans.
Voilà, on savait pas trop. Jean-Luc, dans un instant, donc l'essai de la semaine, ce sera l'Opel Corsa i. Mais auparavant,
tiens, on a Florence en plus qui nous dit j'ai changé ma 206 essence de 2003 pour une Swift hybride. J'adore. Et elle a mis deux petits cœurs.
C'est mignon.
Ah bah oui.
Et Joachim est avec nous au 32-16.
Oui, bonjour.
Bonjour Joachim.
Oui, je suis ravi de vous avoir. Alors, je vous appelle parce que j'ai une Mégane 3 Acajou diesel de 90 000 km maintenant que j'ai acheté d'occasion.
Et alors, attendez, Acajou, c'est quoi la couleur ou c'est non, l'intérieur
Acajou,
c'est en Acajou
c'est la en fait. C'est-à-dire, il y a une Mégane 3 de 2017, mais il y a le radar de recul, enfin la caméra de recul, il y a quelques petites options comme ça en plus. C'est juste une finition qui a été produite entre avril et juillet 2017. C'est
d'accord.
Très exclusif, on va dire.
Ok, super.
Voilà, c'est des gens de 18 pouces, voilà, ce genre de choses.
D'accord, donc c'est quoi votre question?
Donc ma question, c'est que je souhaite maintenant acheter un véhicule hybride d'occasion encore. Et j'hésite en fait entre trois modèles, donc une Toyota Auris 2, une Lexus CT200H et une Hyundai Ioniq, sachant que je fais surtout de la ville et du périurbain et que j'ai un budget de 17 000 euros à peu près. Et l'objectif au final, c'est de consommer le moins possible, sachant qu'avec la Mégane, je suis actuellement à 5 litres au 100.
D'accord.
Et voilà.
Alors, vous m'avez dit une Auris.
Voilà, une Auris 2, une Lexus.
Une Lexus, c'était 200H.
Et une Hyundai Ioniq.
La Hyundai Ioniq.
Ou la Hyundai Ioniq. Alors, on va tout de suite éliminer la Hyundai, parce que le système hybride de Hyundai est un petit peu moins efficace. Si vraiment votre priorité, on aurait parlé de plaisir de conduite, ça aurait été différent. Mais si votre priorité absolue, c'est la consommation, le système hybride de Hyundai est un petit peu moins performant que le système hybride de Toyota. Après, on se retrouve.
Vous avez entendu beaucoup parler de l'effet mobilette en fait des Toyota.
Ouais, mais franchement, si vous faites de la ville, vous l'aurez jamais. Hein.
D'accord.
Donc c'est pas gênant du tout. Après, bon, en matière de finition, entre la Lexus et l'Auris, hein, on saute du coq à l'âne.
Oui.
Bon, la Lexus, ça reste une Lexus, même si la finition n'a rien à voir avec les modèles supérieurs. Bon, c'est une Prius rhabillée, une Lexus CT200H, mais au moins, ça a le mérite d'avoir une finition qui est correcte.
Oui.
L'Auris 2, franchement, on en parlait tout à l'heure, hein, on avait un auditeur qui en a eu une pendant longtemps, à l'intérieur, c'est miséreux, quoi. La voiture en elle-même, elle est bien. Mais franchement, quand on s'assoit dedans, on se dit, bon, voilà, on a l'impression d'être dans une voiture low cost, alors que ce n'est pas une voiture low cost. Après, c'est la taille. Est-ce que vous transportez souvent des personnes? Est-ce que vous avez besoin de quatre portes? Est-ce que vous avez, besoin d'un grand coffre?
Oui, après, je ne transporte pas beaucoup de personnes. Par contre, j'ai besoin d'un minimum de coffre. Et c'est vrai que la Hyundai paraissait un peu
un petit peu mieux. Mais si la priorité, c'est la conso. Alors moi, je privilégierais la Lexus pour l'environnement à bord. Finalement, une voiture, on est quand même dedans la majeure partie du temps. Quand on s'en sert, il vaut mieux. Hein. Donc c'est quand même plus plaisant d'être à bord de celle-là qu'à bord de l'Auris. Voilà. D'autant qu'on peut la trouver pratiquement pour le même budget. Après, la mécanique, c'est exactement la même. Donc vous aurez assez peu de différence. Bon, c'est extrêmement fiable. Donc de ce côté-là, je ne vais pas dire que vous pouvez y aller les yeux fermés, mais presque.
Oui, parce que je cherchais quand même un véhicule de moins de 100 000 km, mais je vous ai entendu la semaine dernière, vous disiez que 150 000 km avec une Lexus, c'était quasiment encore en rodage. Donc...
C'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc, pour moi, la CT200.
Ok, d'accord, très bien. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour la réponse.
Avec votre budget 17 000 euros, donc ce sera une occasion.
Oui, c'est une occasion. C'est une occasion. Ouais, hésitez pas à en prendre une super équipée avec le son. Alors je sais pas si sur les CT200 il y avait Mark Levinson dessus, enfin les sonos Mark Levinson. Mais si c'est une option qui existait, regardez sur les annonces.
Je m'en souviens, vous en aviez parlé, c'était excellent.
C'est super. Hein, on a l'impression d'être dans une salle de concert. Donc tant qu'à faire, on achète une voiture d'occasion. la différence de prix entre deux, une qui l'a et une qui l'a pas, il y aura pas grand chose. Par contre, la différence à l'écoute, sera importante.
D'accord.
Voilà, okay. Joachim.
Bon, ben, merci beaucoup pour votre réponse.
Et à très bientôt.
Bonne journée, Joachim. Au revoir.
Merci, au revoir.
Joachim nous a appelé au 3216. Pourquoi ne feriez-vous pas de même? Vous pouvez joindre Jean-Luc et poser vos questions à notre spécialiste auto. On est là jusqu'à 10h. C'est la particularité de ce rendez-vous RMC. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Jean-Luc, laissez la semaine maintenant. Et c'est l'Opel Corsa I, la première Corsa full électrique.
Full électrique est la cousine de la 208 électrique. Bon, évidemment, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est la même plateforme, c'est la même mécanique. Pourquoi? Parce que Opel appartient désormais à PSA, déjà depuis un petit moment. Donc, c'est la petite sœur. C'est une version électrique, alors qui qui ressemble en tout point à la version thermique. Hein. Pour la différencier, vous avez les roues qui sont différentes et le logo. Et c'est tout. Donc, parce que Opel a fait le même choix que Peugeot, c'est-à-dire vous choisissez une 208, comme vous choisissez une Corsa, et ensuite vous choisissez la motorisation. C'est la même voiture. C'est pas parce qu'on prend une électrique qu'elle va être différente de la version thermique.
Oui, c'est une motorisation différente.
C'est une motorisation qui est proposée comme les autres motorisations. Voilà. Présentation intérieure, finition identique au thermique. Un peu moins raffinée que sur la Peugeot, on comprendra plus tard pourquoi, parce qu'au niveau du tarif, c'est aussi un peu moins raffiné. La planche de bord, alors, design plus simple. C'est vrai que on passe dans la 208 du truc le plus moderne actuellement, hein, avec oui. l'affichage en 3D et tout. Oui, oui. Là, bon, on passe à un... on n'a pas de e-cockpit, on a un affichage standard, un volant de grand diamètre alors qu'on a un petit volant dans l'autre. Donc ça fait nettement moins high-tech, mais c'est quand même efficace parce que l'ergonomie est bonne. Et puis surtout, la finition est richement dotée dès le modèle de base quand même. Vous avez le freinage d'urgence, le maintien dans la voie, bon j'aime pas trop ça, le régulateur limiteur de vitesse, la lecture des panneaux, le détecteur de sous-gonflage, etc., etc., etc.
Des options qu'il y a sur la 208,
alors,
d'accord.
Pas de base.
Pas au niveau de finition.
Voilà, exactement, exactement. Alors, c'est la même plateforme technique, on l'a dit, que la 208, qui est déjà une voiture, on en a déjà parlé en essai, qui était très agréable. Et là, évidemment, hein, vu que c'est à peu près la même voiture avec une carrosserie différente, évidemment, c'est très bien. On est séduit en premier lieu par le silence et par la douceur de fonctionnement. Les performances sont suffisantes. C'est pas l'électrique la plus performante du marché, mais ça suffit. Alors, on a, en fonction du mode de conduite, on a trois niveaux de couple et de puissance. Hein. Ça va de 100 kW et 260 Nm de couple en mode sport. On s'en sert pas souvent, en fait. Hein. Ça passe de 0 à 100 en 8 secondes une, c'est-à-dire que c'est mieux que les 205 GTI de la grande époque, enfin mieux que les GTI de la grande époque. Après, vous avez un mode normal où on est à 80 kW et 220 Nm, et puis ensuite un mode éco où vous êtes à 60 kW, 180 Nm. Ça limite le couple et la puissance pour évidemment préserver l'autonomie. Alors, l'autonomie, Opel annonce 337 km. On est vraiment dans les chiffres hein, de la 208 selon la nouvelle norme WLTP, avec une consommation annoncée de 17 kWh au 100 km. Il y a des modèles qui font mieux. Les nouvelles Volkswagen font mieux en matière de consommation. Un rendement énergétique qui, a priori, est un petit peu meilleur. Alors, vous allez me dire, bon, ok, ils annoncent 337 km. Combien on fait dans la vraie vie?
Et voilà, c'est ça.
Voilà.
Vous l'avez testée où, cette voiture?
Dans la grande banlieue parisienne. Donc j'ai fait un petit peu de ville, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la route.
D'accord.
Pour essayer d'avoir des parcours un peu variés. On fait entre 300 km quand on est plutôt à l'heure rapide, donc on va dire sur la voie rapide. Alors pas de l'autoroute, hein. À 130 on aura encore un peu moins d'autonomie. Mais en allure rapide à 300 km et 400 km en ville, bon, c'est
pas mal,
c'est suffisamment, voilà. D'autant que on a une option en plus qui permet d'avoir un chargeur un peu plus puissant. On a jusqu'à 11 kW de chargeur optionnel. C'est une option à 730 € qui permet, si on fait beaucoup de kilomètres, de recharger suffisamment vite. Et on a de toute façon de la charge rapide jusqu'à 100 kW si on trouve une borne de recharge ultra rapide là, qui permet de récupérer 80% de l'autonomie en une demi-heure. Côté comportement, on l'a dit tout à l'heure, on revient au même truc, c'est une 208 hein, avec une carrosserie différente. Alors je la trouve peut-être même un tout petit peu plus confortable que la 208. C'est étonnant. Alors est-ce que c'est une fausse idée que je me fais? Mais j'ai trouvé.
Alors
plutôt...
peut-être ont-ils amélioré le confort entre temps? Parce
je
que
sais pas,
la i208 est sortie l'année dernière.
Peut-être que c'est les réglages de suspension qui sont pas exactement les mêmes entre la Peugeot et puis l'Opel. Elle garde un comportement qui est extrêmement sécurisant et je la trouve aussi confortablement amorti que les modèles thermiques. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la 208, qui est un peu plus ferme en modèle électrique. Bon, alors, le gros avantage, on l'a dit au tout début, c'est que elle est un peu moins raffinée que la Peugeot, mais par contre, elle est moins chère. Ah. Il y a environ 2 000 € d'écart, c'est quand même pas rien.
Ah ouais, c'est pas
avec
rien.
La i208.
Alors qu'elle est mieux équipée, c'est ce que vous disiez.
Qu'elle est... elle est pas mieux équipée quand on monte dans les finitions. Elle est mieux équipée, certes,
mais si on prend l'entrée de gamme,
2 000 € moins cher avec un équipement qui est un tout petit peu mieux.
Voilà.
Donc c'est, en fait, c'est même un peu plus de 2 000 €
sur les deux tableaux.
Voilà.
C'est ça.
Donc ça démarre à 30 650 €. Alors c'est 32 700 € hein, pour la 208. Et moi, le modèle que j'avais en essai, qui est une finition élégance, et aux alentours de 35 000 €. de tout ça, n'oubliez pas que vous pouvez déduire 6000 euros de bonus écologique et vous pouvez avoir encore d'autres aides. Donc c'est un véhicule qui va, dans tous les cas, être entre 25 et 30 000 euros une fois que vous aurez déduit les bonus, qui est une excellente voiture. Hein. Oui. Une excellente voiture. Je pense que dans la gamme Corsa, c'est dans la gamme Corsa, c'est la plus sympa.
Voilà. Et bon, les Mimi quoi. Bon,
les Mimi, ouais, non.
C'est pas.
C'est plus, on va dire, c'est peut-être moins de caractère, alors dedans et dehors, qu'une 208. Mais il y a des gens qui n'aiment pas
la
philosophie Peugeot très high-tech à l'intérieur avec le petit volant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Donc on se retrouve avec quelque chose
d'assez... On veut quelque chose de plus traditionnel.
Exactement.
Mais sans renoncer au confort et aux performances, et ben c'est un bon choix.
Voilà, cette Corsa... La Corsa I, exactement.
Corsa I, ouais. C'est la I208 et la Corsa I. La Corsa I.
Jean-Luc, il nous reste une minute.
Ouais.
L'actu de la semaine dans le monde de l'automobile avec le top 15 des marques automobiles les mieux valorisées dans le monde. Eh bien, vous savez quoi ? Aucun constructeur français n'y figure.
Mais ouais, le groupe
américain. C'est un signe, hein, quand même. Hein.
Ouais, le groupe américain de conseil sur les marques, qui s'appelle Interbrand, vient de publier. Alors, c'est une étude annuelle sur la valeur des marques. C'est toutes les marques. C'est pas que l'automobile, avec notamment une attention toute particulière aux constructeurs auto. C'est baptisé Best Global Brands. Cette étude établit le classement des 100 marques les plus puissantes du monde, à la suite d'une évaluation complète de leurs résultats financiers, mais aussi de leur pouvoir d'influence sur le choix du consommateur et leur faculté à maintenir leurs prix. On le sait tous, l'année 2020 est un peu spéciale quand même, hein, Covid oblige. Le coronavirus a nuit à la valorisation du secteur automobile, selon ce classement mondial, par rapport à d'autres secteurs, hein, comme on dira la high-tech par exemple. Alors seul Hyundai voit sa valorisation progresser à 14,3 milliards de dollars. La marque coréenne, classée 36e, fait son entrée dans le top 100 en 2005, avait fait son entrée dans le top 100 en 2005 pour ne jamais le quitter. Tesla et son patron Elon Musk font leur retour dans le classement à la 40e place après l'avoir quitté en 2017. Trois autres marques automobiles leaders conservent leur position dans le classement. Toyota est à la 7e place, Mercedes-Benz à la 8e, BMW à la 11e. Étonnamment, l'autre marque du groupe Hyundai, Kia, ne se classe que 13e marque automobile, valorisée à seulement 5,8 milliards de dollars. Sur les 15 marques automobiles présentes dans ce classement, dans ce top 100, aucune marque française ne figure, en raison de leur absence du marché américain, qui fait s'effondrer leur valeur de marque. De grandes marques américaines comme Jeep ou Chevrolet, insuffisamment présentes dans le reste du monde, sont également absentes du classement. Comme quoi, on peut des fois penser que les marques auto sont très connues dans le monde, pas forcément.
Non, c'est clair. Jean-Luc, il est bientôt 9h. On revient
après... Il est 10h la pendule. Bon, je vous laisse, François. Bon week-end.
Il reste encore une heure. Ah, durant cette dernière heure, on va parler de cette initiative de Land Rover qui mise sur l'hybride et l'éthanol. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, vos questions auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite après la météo et les infos.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.